Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Nouvelle attaque des miliciens de la Côte-d'Ivoire en Ituri, précisément au village Chaba dans le territoire d'Ouvira, a fait état de 8 morts et une dizaine de blessés. Les victimes sont une fois de plus des orpailleurs, mais cette fois-ci du camp minier de Halou. Et puis, cette bonne nouvelle pour les habitants de Mbujima et du Kassai Oriental en général, la reprise des travaux du projet Tile Gelou, suspendu depuis bientôt 3 mois sur la ville de Mbujima, et pour cause de l'arrivée à la gare ferroviaire de Mweneditu d'une importante cargaison de carburant et de ciment. Enfin, la recherche de vivre ensemble a été au centre des consultations intercommunautaires initiées par la MONUSCO qui se sont clôturées le week-end dans la ville d'Ouvira au sud Kivu. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Maître Tchako Tchangou Bonané et Bambi, président du comité urbain de la jeunesse d'Ouvira. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, 8 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées au cours d'une nouvelle attaque des miliciens de la Codeco dans les territoires d'Arou, précisément au village Chaba, à la limite avec celui de Djougou. Selon des sources sur place, la plupart des victimes sont des orpailleurs qui travaillaient au camp minier de Halou. Ces assaillants ont incendié plusieurs maisons et presque toute la population a fui pour trouver refuge ailleurs. Marcel Kizabiamungu.
Un groupe d'hommes armés identifiés aux assaillants de la Codeco en provenance de Walendouati dans les territoires de Maagui s'est introduit la nuit dernière au village Chaba dans les groupements Kantoui en tirant plusieurs coups de feu. Selon le chef d'Endo, ils se sont ensuite dirigés au camp minier de Halou où des milliers de personnes exploitent de l'or. Israël Omu Otobar indique que dans cette confusion, 8 personnes dont 2 femmes sont mortes par balle et 10 autres ont été blessées, dont certaines sont dans un état critique. Ajoute la même source. Avant de se retirer, ces miliciens ont mis les feux à plusieurs maisons et emporté une quantité importante d'or. Les chefs de cette entité déplorent la non-intervention des militaires FRDC qui ont été alertés par la population.
La police qui a intervenu pour l'instant, l'FRDC a désisté. Maintenant, elle n'a pas reçu des ordres. C'est ce qui a étonné la population. C'est vraiment grave. Pour le renforcement de la force pour sécuriser cette contrée-là.
Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole de l'armée à l'Ituri. Notons que c'est la première attaque de ces assaillants de la Codeco dans les territoires d'Arou depuis le début de cette année. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis au nord Kivu, une patrouille de liaison des unités FRDC a essuyé des tirs dimanche entre Bikenge et Ishangi. C'est en profondeur du parc national de Virunga, un groupement Kisigari, territoire de Rutshuru. Bilan, 2 militaires blessés, confirme le porte-parole du secteur opérationnel Sukula 2 Nord Kivu. L'armée accuse le M23 qui est dans la base à Mouati d'avoir violé les cessez-le-feu. Le M23 rejette ces allégations en bloc. Denise Lukesso.
Le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko parle de la énième attaque du M23 sur les FRDC dans le secteur. L'attaque d'hier intervient après celle intervenue le 23 et 27 avril dernier à Rwanguba, Tchengerero, Kabindi et Bougoussa, dénonce cet officier de l'armée et poursuit que c'est en violation du cessez-le-feu et d'autres recommandations du conclave des 4 chefs d'État à Nairobi, lesquels les obligent notamment à se retirer et rentrer dans leur position d'avant le 25 mars 2022. Mais l'armée n'a pas répliqué, dit ses communicateurs militaires.
Nous n'avons pas répliqué de manière à donner une chance aux recommandations du conclave de Nairobi. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo met en garde ces détenteurs illégaux d'armes à feu.
Le porte-parole du M23 rejette ces accusations. Le major Willy Ngoma accuse, en revanche, l'armée loyale d'attaquer le M23 qui ne ferait que répliquer. Sur le terrain, le M23 affirme occuper les collines de Tchanzu et de Runyoni pour protéger son arrière-base du Mont Sabinio, déclare son porte-parole. Tandis que le FRDC, elle, contrôlerait la position de Bougoussa, une dizaine de kilomètres au nord. Goma, Denise Lukesso, Radio Okapi.
Au sud Kivu, 5 prévenus ex-membres du groupe armé comparaissent ce lundi devant la cour militaire du sud Kivu. Ils sont jugés en appel pour des faits de crimes contre l'humanité, violences sexuelles, pillages, meurtres et tortures. Un procès qui bénéficie d'un appui de la cellule d'appui à la justice de la MONUSCO avec les autres membres de la Task Force Justice Pénale Internationale. Cynthia Bachizi, Nabizana.
Deux dossiers sont jugés en second degré par la Cour militaire du Sud-Kivu. D'abord, le dossier Bukanga, du nom de la localité dans le territoire de Kalehe où les faits s'étaient produits. Trois prévenus, tous ex-membres du groupe armé Raia Mutomboki Manginga, ont été condamnés en première instance, respectivement, à 20, 15 et 10 ans de prison par le tribunal militaire de garnison de Bukavu. C'était en août 2020. Deux autres prévenus, ex-membres du groupe armé Amakombo, seront également réjugés. Ils ont été initialement condamnés à 20 ans de servitude pénale en octobre 2020. Dans ce procès en appel, les conseils des prévenus vont plaider pour un acquittement de leurs clients qui sont détenus actuellement à la prison centrale de Bukavu. Les peines prononcées en première instance peuvent être soit confirmées ou diminuées, étant donné que le ministère public n'avait pas fait appel. L'audience de ce lundi est organisée au siège de la cour militaire du Sud-Kivu à Bukavu, mais sauf imprévu, le procès sera délocalisé dans le territoire de Kalehe à partir de ce mardi, ce qui permettra aux victimes de prendre part aux audiences. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Toujours au Sud-Kivu, les consultations intercommunautaires se sont clôturées le week-end dans la ville d'Uvira. La recherche de vivre ensemble a motivé toutes les communautés à participer activement dans ces assises de 5 jours et à l'issue desquelles une feuille de route sur base des états des lieux a été tracée et les engagements ont été pris par ces communautés. Ces assises ont été appuyées par la MONUSCO. L'expert du ministère provincial de l'Intérieur Sud-Kivu a lancé l'appel vibrant à toutes les communautés ethniques vivant dans l'espace Uvira, Fizi et Itombwe à mitiger les violences par la cohésion sociale et leur cohabitation pacifique. Amissi Lupota est au micro de Fiston Goma.
On commence d'abord ici en fait par les leaders communautaires avec qui nous avons été ici dans la salle. Il y aura maintenant d'autres phases pratiquement pour suivre ces gens là-bas en fait qui sont là pour parler aussi avec eux. C'est comme par exemple en fait nous avons été à Baraka, après Baraka pratiquement sur le problème de Bibokoboko. Mais ici, le ministère de l'Intérieur avec la MONUSCO sont en train de mettre en place un mécanisme cohérent pour aller maintenant véhiculer le message de paix au niveau de Baraka. Pour regrouper les chefs coutumiers au niveau de Baraka pour parler le problème de terre. Et même à Bibokoboko pour les lancements maintenant des messages de paix. C'est un processus que tout le monde a compris qu'il faille maintenant vivre ensemble, vivre en cohabitation pacifique, parce qu'en fait nous ne sommes pas le premier pays au monde qui a connu des conflits communautaires. Il y en a d'autres. Après avoir eu les enseignements sur la cohabitation pacifique, il y a l'accalmie. Même chez nous au Congo, il n'y a que problème de volonté. Et maintenant ici, nous venons de voir pratiquement que les gens commencent un peu à avoir la volonté de vouloir cohabiter ensemble. C'est le vivre ensemble là que nous avons besoin comme ministère de l'Intérieur, chargé aussi bien entendu de la sécurité.
Nous l'avons dit au sommaire. Au Kassa Oriental, reprise des travaux du projet Tchi-Légelou, suspendu depuis bientôt 3 mois sur la ville de Mbujimaï. Le directeur de l'office de voiries et drainage affirme avoir réceptionné une importante cargaison de carburant et de ciment acheminé à la gare ferroviaire de Moneditou par la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. L'arrivage de plusieurs wagons a même entraîné la réduction des prix de carburant et de ciment sur la ville de Mbujimaï. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, encourage les autorités et la société ferroviaire à maintenir cet élan externe dans la finale.
Les travaux de modernisation et de réhabilitation de 25 km de route dans le cadre du projet Tchi-Légelou ont repris vers la fin de la semaine dernière à Mbujimaï après 3 mois de suspension. Victor Kachala, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, affirme que son entreprise a réceptionné plusieurs tonnes de ciment à la gare ferroviaire de Moneditou.
Nous venons de réceptionner un lot de ciment qui nous ont permis de reprendre les travaux de maçonnerie. Pour cela, nous remercions les autorités de la présidence de la République ainsi que la direction de la SNCC.
L'acheminement à Moneditou d'une importante cargaison de ciment et de carburant a aussi entraîné la baisse des prix de ces produits sur le marché. Le sac de ciment qui coûtait $40 se vend actuellement à $35 voire $33, tandis que le litre de carburant qui coûtait 6000 francs se négocie actuellement à 4300 francs congolais. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC, encourage les autorités de la SNCC à maintenir cet élan.
Félicitons l'équipe de la direction générale avec M. Bouton pour les efforts fournis et nous leur demandons de maintenir ces caps.
Signalons que depuis le mois d'avril dernier, une forte équipe de la direction générale de la SNCC a séjourné pendant plusieurs jours à Ilebo dans le but d'évacuer plusieurs tonnes de marchandises, dont les wagons de ciment et de carburant des différents projets conçus pour le Grand Kassai. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, un lot important de 289 ballots, composés chacun de 50 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, soit 14 450 moustiquaires en destination de la zone de santé de Mukedi dans le territoire de Gungu a été pillé le 3 mai dernier par les populations du territoire d'Idiofa. Depuis tout ce temps, tous les services se sont mobilisés pour contraindre ces populations de remettre ces moustiquaires pillés, mais cela sans succès. La société civile de Gungu condamne fermement ce comportement de la population et demande aux services de sécurité de procéder aux perquisitions dans ces villages en vue de récupérer les moustiquaires. Irène Bouma.
Le président de la société civile du territoire de Gungu précise que ces moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été pillés par les populations des quatre villages du territoire de Djofa, à savoir Mungai Vanda, Mungai Mundundu, Mungai Musenge et Mungai Kinganzi. Tout a commencé le 3 mai en cours lorsqu'un gros véhicule transportant ces moustiquaires a connu un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 au niveau de la descente de la rivière Mungai dans le territoire de Djofa. Joachim Kusamba exige la perquisition d'un tous ces villages afin de récupérer toutes ces moustiquaires destinées à la zone de santé de Mukedi dans les territoires de Gungu.
C'est un acte que nous condamnons fermement et nous demandons à l'État rapidement d'initier l'action de perquisition. Comme les gens, depuis le 3 mai jusqu'à ce jour, ces gens-là n'ont pas le souci de rembourser, donc de remettre les bateaux de moustiquaires qui devraient servir à la population de la zone de santé de Mukedi. La société civile propose rapidement l'action de la perquisition de toutes les maisons de ces quatre villages.
Notez qu'hier dimanche 15 mai, une équipe de Sanri Kinshasa et de Kwilu, accompagnée notamment du chef de parquet de Gungu, de l'administrateur du territoire de Djofa ainsi que de la société civile de ces deux territoires, a séjourné à Mungai pour demander à la population de restituer les moustiquaires pillés. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
On reste dans les Kwilu, le président national de l'Église du Christ au Congo, SCC en sigle, le révérend docteur André Bokundo a procédé dimanche 15 mai à l'installation officielle du président provincial de l'SCC du Grand Bandundu, le révérend Pierre Mumbambi, et de son vice, le révérend pasteur Gédéon Mundele. Tous deux élus le 15 décembre 2020 par le synode provincial dans la ville de Kikwit. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'esplanade de l'église missionnaire de la 35e QEBC en présence des autorités politico-administratives et religieuses venant des différents coins de la province du Grand Bandundu. Dans son message intitulé « Vous serez mes témoins », le prélat de l'église du Christ au Congo a exhorté ses élus d'être prêts à subir le martyr à cause de Jésus-Christ, d'être des modèles dans leur comportement et de ne rien dire que la vérité jusqu'au bout sans trahir l'Église du Christ. Signalons que ce comité a été élu pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. Au Nord Kivu, les cours ont repris normalement ce lundi dans plusieurs entités de la région de Beni et Lubero après un mouvement de grève observé pendant une semaine. C'est le cas notamment de la sous-division de Ndiapanda dans les territoires de Lubero où après 9 jours de grève, les enseignants ont décidé de reprendre le chemin de l'école en vue de sauver cette année scolaire, affirme-t-il. Cependant, les grévistes mettent le gouvernement devant ses responsabilités face aux revendications des enseignants. Grâce à Mzati.
Ce lundi matin, toutes les écoles primaires et secondaires publiques de la sous-division de l'EPST Ndiapanda Mangurejipa ont rouvert leurs portes, rapportent les acteurs de la société civile dans la région. Cela est le résultat d'une assemblée générale extraordinaire et évaluative tenue le week-end par l'intersyndicale Ndiapanda. Bienheureux Paluku Kimbere, secrétaire permanent local du SINECAT, affirme que cette décision vise à privilégier l'intérêt supérieur des élèves en vue de leur permettre de terminer le programme scolaire. Au-delà des revendications générales qui consistent notamment à l'alignement des nouvelles unités à la paie, les enseignants d'Ndiapanda réclament également la reconstruction par le gouvernement de nombreuses écoles détruites par les catastrophes naturelles dans cette région. À Butembo, de nombreuses écoles publiques ont également repris les enseignements comme d'habitude. Même situation dans les écoles de Beniville et Beni Territoire, où les enseignants ont été présents mais en face d'un nombre très réduit d'élèves, faute de l'information sur la levée de la grève. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Mali quitte le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Pour le gouvernement militaire de transition, l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur. Lors d'une allocution télévisée, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a tout de même annoncé conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel. Et puis, plus de 1,2 million de cas de fièvre et 50 morts pour un peu plus de 25 millions d'habitants. C'est le bilan annoncé par le régime nord-coréen ce lundi 16 mai. Des chiffres évidemment très approximatifs et certainement sous-estimés faute de capacité de dépistage, mais qui témoigne en partie de la gravité de la situation en Corée du Nord.
l'invité.
Au Sud Kivu, les consultations intercommunautaires se sont clôturées le week-end dernier dans la ville d'Uvira. La recherche de vivre ensemble a motivé toutes les communautés à participer activement dans ces assises pendant 5 jours et à l'issue desquelles une feuille de route sur base des états des lieux a été tracée et les engagements ont été pris par ces communautés. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Maître Tchako Tchangu Bonané Bambé, président du comité urbain de la jeunesse d'Uvira. Il s'entretient avec Fiston Goma. Suivez.
Maître Tchako Tchango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez représenté la jeunesse ici dans ces consultations intercommunautaires. Vous faites quelle analyse par rapport aux différentes rencontres, différents dialogues, différentes consultations entre les communautés? Ça a commencé depuis longtemps, même si c'est un processus. Vous avez quelle analyse par rapport à l'aboutissement des différentes résolutions issues de ces rencontres?
Il est vrai que nous avons participé dans cette activité. Au-delà de notre conclusion, nous avons observé que les communautés ne prennent pas encore conscience que elles ont vraiment perdu les gens, qu'il y a une richesse qu'elles ont perdue, qu'il y a un déplacement massif de la population, que nous avons suffisamment appuyé nos jeunes qui sont dans la brousse et qui ont changé de gap, et que nous devons nous interpeller tous. Et qu'il y a des communautés qui sont là, déjà, voulues par Dieu, créées par Dieu, et que nous devons vivre ensemble. Et j'ai vu important de répéter à Congolais que le devoir d'imposer la paix lui appartient, puisque c'est une mission régalienne. Et nous avons vu combien de fois les conseillers du ministre, il était très actif d'interpeller les communautés, les religieux, les autorités coutumières à s'impliquer pour que nous ayons la paix, à s'impliquer pour une cohabitation pacifique. Moi, j'estime important que nous devons maintenant nous dire que la guerre, les conflits à répétition doivent cesser pour que nous ayons la paix. Mais aussi, ce que j'ai observé, on a vu que même les forces armées commencent maintenant à dire qu'elles aussi sont fatiguées. Il y a quand même un colonel des FARDC qui a dit qu'il fait maintenant 25 ans dans la brousse. Donc pour lui, c'est déjà trop. Il estime important que les communautés doivent d'abord s'interpeller entre elles et dire que nous sommes fatigués et faisons quand même un pas vers la paix. Toutes les actions entreprises par le gouvernement congolais ont été louées. Et un dernier d'ailleurs investissement leur a été donné pour qu'eux aussi s'investissent pour toutes les questions de la paix, de la coopération pacifique, afin que nous puissions voir le développement commencer dans le territoire d'Uvira et dans les hauts plateaux d'Uvira Fizi-Mwenga.
Uvira, pratiquement, il ne se pose aucun problème de cohabitation entre les différentes communautés. Mais là où se posent les sérieux problèmes, c'est là où il y a un activisme accru des groupes armés autour de Minembwe, dans Bijombo. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe là-bas, c'est une sorte de sabotage à tout ce qui se passe comme dialogue entre les communautés?
Il est vrai que dans la ville d'Uvira, il n'y a pas les groupes armés. Mais ce qui se vit dans le haut plateau d'Uvira, de Fizi, de Mwenga, ont comme conséquence dans la ville d'Uvira. Tous les mouvements de la population de là se déversent vers la ville d'Uvira, considérée comme un îlot de paix. Et que là où il y a les groupes armés étrangers comme nationaux, c'est là où se vivent des atrocités très graves. Moi, j'estime important que les groupes armés doivent emboîter les programmes que l'État congolais a amorcés, les PDDRCS. Enfin, que nous puissions quand même voir une paix durable. Et que s'il y aurait des revendications, qu'un lobbying soit fait. Pourquoi pas que ces groupes armés puissent faire un regroupement unique, afin qu'ils puissent au moins parvenir à un mémo auprès du commandant en chef qui est le président de la République. Bon, j'estime important pour eux de les interpeller, de prendre conscience, d'échanger d'abord entre eux, que la population vraiment en a marre. Un groupe armé ne peut vivre là où il n'y a pas de gens. Sans population, donc il n'y a pas un groupe armé. Et là où ils sont, ils se font 10 jours le jour la guerre. Il y a ce qui se passe. Il est temps qu'eux aussi réfléchissent. Il est temps qu'eux aussi revendiquent pacifiquement. Il est temps qu'ils emboîtent le pas du programme PDDRCS, puisque la population en a marre. Dans la ville d'Uvira, nous avons essayé, en interpellant la jeunesse, à se désolidariser avec les banditismes urbains. Le message est clair, d'abandonner les groupes armés, de quitter les groupes armés, de se sensibiliser, puisque c'est là que les groupes armés sont nos frères, et que nous puissions quand même nous unir dans une cohésion d'idées en vue de voir que les territoires, la ville, les hauts et moyens plateaux soient calmes et l'émergence, j'estime, que est en route.
Maître Tchako Tchango, merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.